Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 3, scène 22. Pierre retourna chez les Rostov dans la soirée pour remplir sa mission. Natacha était au lit, le comte au club. Il remit les lettres à Sonia et passa chez Marie Dmitrievna, qui était très désireuse de savoir comment le prince André avait supporté sa déception. Sonia entra un instant après. « Natacha tient à voir le comte, » dit-elle. « Mais comment le mener chez elle, où tout est en désordre ?» demanda Marie Dmitrievna. « Elle s'est levée et attend le comte au salon, » répliqua Sonia. Marie Dmitrievna haussa les épaules. « Quand sa mère arrivera-t-elle ? Je suis à bout de force. Quant à toi, ménage-la, ne lui dis pas tout. Elle fait tellement pitié qu'on n'a pas le cœur de l'accabler. » Natacha, amaigrie, pâle, mais n'ayant nullement l'air humilié, comme Pierre s'y attendait, le reçut debout au milieu du salon. Elle hésita en le voyant entrer, ne sachant si elle devait avancer ou rester en place. Il pressa le pas, pensant que, comme toujours, elle allait lui tendre la main. Mais elle s'arrêta tout à coup en suffoquant et laissa retomber ses bras le long de son corps. C'était sans qu'elle y songeât sa pose habituelle, lorsqu'autrefois elle se préparait à chanter au milieu de la salle. Mais aujourd'hui, comme l'expression de sa figure avait changé. « Pierre Kirillovitch, » lui dit-elle précipitamment, « le prince Bolkonski était votre ami. »« Est votre ami, » ajouta-t-elle en se reprenant, car il lui semblait, au milieu de ce chaos, que rien de ce qui avait été n'existait plus. Il m'a dit de m'adresser à vous si... » Pierre la regardait en silence. Jusqu'à ce moment, il l'avait, à part lui, accablée de reproches sanglants. Il avait même essayé de la mépriser dans le fond de son cœur. Mais à présent, à mesure qu'il sentait grandir la compassion qu'elle lui inspirait, ses reproches s'envolaient un à un. « Il est ici. Dites-lui que je le prie de... « Me pardonner. » Sa voix se brisa. Elle était vaincue par l'émotion, mais elle ne pleurait pas.
« Oui, je le lui dirai. »
murmura Pierre, ne sachant que lui répondre. Natacha, effrayée de l'intention qu'il pouvait prêter à ses paroles, reprit vivement. « Oh, je sais que tout est fini et que cela ne peut plus se renouer, mais je suis tourmentée du mal que je lui ai fait. « Dites-lui qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne !» ajouta-t-elle en tremblant convulsivement et en se laissant tomber sur un fauteuil.
« Oui, je lui dirai tout !»
répondit Pierre avec une profonde émotion.
« Mais j'aurais désiré savoir une chose. »«
Laquelle ?»«
J'aurais voulu savoir si vous avez aimé ce... »
Il rougit, ne sachant comment qualifier Anatole.
« Si vous avez aimé ce vilain homme. »«
Oh, ne l'appelez pas ainsi. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. » Une pitié telle qu'il n'en avait jamais ressenti une pareille, un sentiment de profonde et ineffable tendresse, envahit si violemment l'âme de Pierre que les larmes jaillirent de ses yeux. Il les sentait couler sous les verres de ses lunettes et espérait qu'elle ne les remarquerait pas.
« N'en parlons plus, mon enfant, »
lui dit-il en se remettant peu à peu. Natacha fut frappée de la douceur et de la sincérité de sa voix.
« N'en parlons plus, mon enfant, »
répéta-t-il.
« Je lui dirai tout, mais au moins accordez-moi une chose. Considérez-moi comme votre ami. Si jamais il vous faut un conseil, un appui, ou simplement si vous avez besoin d'épancher votre cœur dans un autre... » « Pas à présent, mais lorsque vous verrez clair au-dedans de vous-même, souvenez-vous de moi. »
Et, lui prenant la main, il la baisa.
« Je serai heureux de pouvoir vous être utile. »«
Ne me parlez pas ainsi. Je ne le mérite pas !» s'écria Natacha en se levant pour s'en aller. Mais Pierre la retint. Il avait encore quelque chose à lui dire, et lorsqu'il le lui eut dit, il s'étonna de sa hardiesse.
« C'est à vous que je redirai de ne pas parler ainsi,
poursuivit-il.
Car vous avez encore toute une vie devant vous.
Non, je n'ai plus rien. Tout est perdu pour moi, s'écria-t-elle.
Non, tout n'est pas perdu,
continua Pierre en s'animant.
Si j'étais un autre que moi, si j'étais le plus beau, le plus intelligent, le meilleur des hommes, si j'étais libre, je vous aurais demandé à genoux, à l'instant même, votre main et votre amour.
Natacha, qui n'avait pas encore pu pleurer, fondit en larmes à ces paroles et quitta l'appartement en le remerciant d'un regard reconnaissant et attendri. Retenant ses pleurs avec peine, il sortit également en toute hâte, et après avoir passé sa pelisse tant bien que mal, il se jeta dans son traîneau.
« Où faut-il vous mener ?»
demanda le cocher.
« Où ?»
se dit Pierre à lui-même.
« Mais où peut-on aller à présent ? Certainement pas au club pour y voir cette foule d'indifférents. »
Tout lui semblait maintenant si misérable, comparé au sentiment d'affection et d'amour qui l'avait envahi, à ce long et doux regard qu'elle avait attaché sur lui à travers ses larmes.
« À la maison !»
cria Pierre, en rejetant derrière lui, malgré les 10 degrés de froid, sa grosse fourrure d'ours, et en découvrant sa large poitrine qui se soulevait de bonheur. Le temps était admirablement clair. Au-dessus des rues sales et obscures, au-dessus des toits qui s'enchevêtraient les uns dans les autres, s'étendait la voûte foncée du ciel, tout constellée d'étoiles. Et contemplant ces hautes et mystérieuses sphères, si bien en harmonie avec l'état de son âme, il oubliait l'outrageante abjection de la terre. Au moment où il débouchait sur l'Arbatskaya, un large espace du sombre horizon s'ouvrit devant ses yeux. Tout au milieu rayonnait une pure lumière, dont la brillante chevelure, entourée d'astres scintillants, se déployait majestueusement sur l'extrême limite de notre globe. C'était la fameuse comète de 1811, celle-là même qui, au dire de chacun, annonçait des calamités sans nombre et la fin du monde. Mais elle n'éveilla aucune terreur superstitieuse dans le cœur de Pierre, et ses yeux humides de pleurs l'admiraient au contraire avec extase. Ne semblait-elle pas être venue s'enfoncer dans ce coin de la terre comme une flèche dont la parabole aurait franchi avec une rapidité vertigineuse l'incommensurable espace, et qui maintenant, relevant au-dessus d'elle son long et lumineux panache, se jouait au loin dans l'infini. Il lui sembla que sa céleste lueur dissipait les ténèbres de son âme et lui laissait entrevoir les clartés divines d'une nouvelle existence.